De la justification propriétariste de la compensation au négrier. Il est important d'insister sur le fait que cette politique d'indemnisation des propriétaires apparaissait évidente aux yeux des élites britanniques de l'époque. Si l'on spoliait sans compensation les propriétaires d'esclaves, alors pourquoi ne pas spolier également ceux qui avaient détenu des esclaves dans le passé et qui avaient ensuite échangé leurs esclaves pour d'autres placements? De proche en proche, ne risquait-on pas de finir par remettre en cause l'ensemble des droits de propriété acquis autrefois? On retrouve là les mêmes arguments propriétaristes que ceux déjà rencontrés dans d'autres contextes, par exemple au sujet des corvées sous la Révolution française ou des absentee landlords en Irlande à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Souvenons-nous également des romans de Jane Austen évoqués dans le chapitre précédent. Dans Mansfield Park, il se trouve que Sir Thomas détient des plantations à Antigua et que Henry Crawford n'en possède pas. Mais cela n'entraîne aucune connotation morale particulière, tant les différentes formes d'actifs et de détention patrimoniale, terres, titres de dette publique, immeubles, placements financiers, plantations, etc., apparaissent interchangeables, pourvu qu'ils produisent le revenu annuel attendu. Au nom de quoi un Parlement aurait-il le droit de ruiner l'un sans ruiner l'autre? De fait, la solution idéale n'était pas si simple à déterminer, tant que l'on se refusait à remettre en cause la logique propriétariste. Sans doute aurait-il été justifié de mettre à contribution davantage ceux qui s'étaient enrichis en possédant des esclaves, non seulement en les privant de leur propriété, mais également en indemnisant les esclaves, par exemple en leur transférant la propriété des parcelles sur lesquelles ils avaient travaillé si longtemps sans rémunération. Mais pour financer la compensation, il aurait été justifié de faire également contribuer l'ensemble des propriétaires, avec un barème d'autant plus lourd que leur fortune était importante, quelle que soit sa composition, afin de prendre en compte le fait que de nombreuses personnes avaient détenu des esclaves dans le passé, et plus généralement, que tous les propriétaires s'étaient enrichis en conduisant des transactions avec les esclavagistes et leur production cotonnière et sucrière, qui jouaient un rôle central dans l'ensemble du système économique de l'époque. Or, c'est précisément cette remise en cause générale de la propriété qui serait devenue presque inévitable dès lors que l'on posait la question de l'indemnisation des esclaves, ou simplement si l'on admettait l'absence d'indemnisation des propriétaires, que les élites du XIXe siècle voulaient éviter. La nécessité de la compensation versée aux propriétaires allait de soi non seulement pour les élites politiques et économiques de l'époque, mais également pour une bonne partie des penseurs et intellectuels. On retrouve la distinction entre les lumières radicales et modérées rencontrées au moment de la Révolution française. Si certains radicaux comme Condorcet défendaient l'idée d'une abolition sans compensation, la plupart des élites libérales et modérées considéraient la compensation des propriétaires comme un préalable évident et indiscutable. On pense notamment à Tocqueville, qui s'illustra dans les débats français sur l'abolition au cours des années 1830-1840 par des propositions d'indemnisation qu'il voulait ingénieuses et qui étaient surtout très généreuses pour les propriétaires, comme nous le verrons plus loin. Les arguments moraux sur l'égale dignité humaine jouèrent certes un rôle dans les débats abolitionnistes. Mais tant qu'ils ne s'accompagnaient pas d'une vision d'ensemble de l'organisation économique et sociale et d'un plan précis décrivant comment l'abolition allait s'insérer dans l'ordre propriétariste, ces arguments avaient du mal à emporter l'adhésion. Au XVIIIe et XIXe siècle, de nombreux abolitionnistes chrétiens tentèrent d'expliquer que la doctrine chrétienne elle-même commandait de mettre fin immédiatement à l'esclavage, et que c'était d'ailleurs l'avènement du christianisme qui avait permis de mettre un terme à l'esclavage antique. Malheureusement, l'argument était faux. On observe de nombreux évêchés possédant des esclaves dans l'Europe chrétienne au moins jusqu'au 6e-7e siècle, ce qui a d'ailleurs accéléré les conversions et la pénétration de l'islam en Espagne au 8e siècle. Cette expérience négative contribua à inciter les royaumes chrétiens repliés dans le nord de l'Espagne à réduire l'usage de l'esclavage à partir du 8e et du 9e siècle. Il fallut attendre l'an 1000 pour voir la fin de l'esclavage européen, et plusieurs siècles supplémentaires pour que le servage disparaisse, voire la fin du 19e siècle dans le cas de la Russie orthodoxe. Lors de ces débats, de nombreux historiens et antiquisants, notamment au sein de l'école allemande, s'opposèrent aux arguments des abolitionnistes chrétiens en insistant sur le fait que c'est l'esclavage, en laissant d'autres classes se consacrer à des activités artistiques et politiques supérieures, qui avait permis la grandeur de l'Antiquité en général et des civilisations gréco-romaines en particulier. S'opposer à l'esclavage revenait donc à s'opposer à la civilisation et à s'en remettre à un égalitarisme médiocre. Certains tentèrent même de démontrer ce lien entre esclavage et civilisation en défendant l'idée que la population humaine n'avait jamais été aussi élevée que dans l'Antiquité, ce qui était tout aussi faux que les affirmations des abolitionnistes chrétiens, mais avec quelque apparence de plausibilité en raison du climat intellectuel de l'époque, de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle. Le Moyen Âge était volontiers regardé comme l'âge des ténèbres. Il est également intéressant de noter que les débats sur l'abolition, particulièrement vifs au Royaume-Uni et en France, de 1750 à 1850, utilisaient un grand nombre d'arguments chiffrés et statistiques sur les mérites comparés du travail servile et du travail libre. Les abolitionnistes, en particulier sous la plume de Dupont en 1771, puis dans les calculs plus sophistiqués de Lafond de la Débat en 1788, estimaient que le travailleur libre était tellement plus productif que l'esclave que les planteurs pourraient gagner encore plus d'argent en émancipant leurs esclaves et en transportant aux Antilles une partie de l'abondante main-d'œuvre bon marché disponible dans les campagnes françaises et européennes. Les propriétaires d'esclaves se montrèrent peu convaincus par ces savants calculs, à dire vrai peu crédibles, et estimaient au contraire que la productivité du travail libre et servile était équivalente, ou peut-être même plus élevée, dans le cas du travail servile, compte tenu de la dureté des tâches et de la nécessité des châtiments corporels. Les esclavagistes des différents pays insistaient également sur le fait que les coûts salariaux plus importants associés au travail libre pour une même productivité ruineraient immédiatement leur compétitivité commerciale vis-à-vis des concurrents des autres puissances coloniales. Plus personne ne voudrait de leur sucre, de leur coton et de leur tabac, et ce serait la faillite immédiate de la production nationale et de la grandeur du pays, si par malheur l'on se mettait à suivre les lubies anti-économiques et anti-patriotiques des abolitionnistes. Au final, rien n'indique que la fin de la traite atlantique en 1807 ait nuit à la profitabilité des plantations. Les personnes vivant de la traite ont certes dû changer de métier, mais les planteurs se rendirent vite compte qu'il pouvait être moins coûteux de s'appuyer sur la reproduction de la population esclavagiste. La décision fut d'ailleurs prise par le Royaume-Uni, reprise en 1808-1810 par les États-Unis et la France, puis généralisée aux autres puissances européennes lors du Congrès de Vienne en 1815, à un moment où cette pratique reproductive était déjà largement répandue et avait prouvé son efficacité. De même, il est probable que si les élites propriétaires et industrielles du Royaume-Uni acceptèrent de se lancer dans l'abolition de 1833, c'est en partie parce qu'elles estimaient à ce moment-là que le travail salarié permettait un développement économique tout aussi profitable que le travail servile, sans compter qu'il était tentant de se venger des États-Uniens, de leur indépendantisme comme de leur archaïsme économique. À la condition toutefois que les propriétaires d'esclaves reçoivent une compensation intégrale pour leur perte de propriété, comme cela fut fait dans le cas de l'abolition britannique, car il est très peu probable que la plus grande efficacité du travail libre aurait pu suffire à indemniser les propriétaires, quoi qu'aient pu prétendre certains abolitionnistes. L'abolition de l'esclavage avait un coût pour les propriétaires, et le choix politique du Royaume-Uni consista à faire payer ce coût par les contribuables britanniques, ce qui montre à la fois la puissance politique des propriétaires et de l'idéologie propriétariste dans la société de l'époque. France, la double abolition de 1794-1848. L'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises a ceci de particulier qu'elle se déroula en deux étapes. Une première abolition fut décidée par la Convention en 1794, à la suite de la révolte des esclaves de Saint-Domingue, Haïti, avant que l'esclavage soit rétabli en 1802 sous Napoléon. Finalement, l'abolition définitive fut adoptée en 1848 à la suite de la chute de la monarchie et de l'avènement de la Deuxième République. Le cas français vient en outre rappeler ce qui est sans doute le premier facteur historique qui a mené à l'abolition de l'esclavage. Non pas la grandeur d'âme des abolitionnistes euro-américains ou les petits calculs des propriétaires, mais les révoltes organisées par les esclaves eux-mêmes et la peur de nouvelles révoltes. Leur rôle crucial est évident dans le cas de l'abolition de 1794, qui est la première grande abolition de l'histoire moderne et qui est la conséquence directe du fait que les esclaves haïtiens avaient déjà obtenu par les armes leur propre libération et s'apprêtaient à déclarer l'indépendance du pays. Il est également parfaitement clair, dans le cas de la loi britannique de 1833, qui eut lieu moins de 2 ans après la grande révolte des esclaves en Jamaïque de Noël 1831, révolte dont les échos sanglants dans la presse anglaise firent forte impression sur l'opinion britannique et contribuèrent à remettre en selle les abolitionnistes lors des débats de 1832-1833 et à convaincre les propriétaires qu'il était plus sage d'accepter une généreuse compensation financière plutôt que de prendre le risque que leurs plantations de Jamaïque ou de la Barbade connaissent un jour le sort de celles de Saint-Domingue. La révolte jamaïcaine de 1831, qui se termina par des exécutions de masse, faisait elle-même suite à celle qui eut lieu en Guyane britannique en 1815 et à la grande révolte de la Guadeloupe en 1802, qui se termina par l'exécution et la déportation d'environ 10 000 esclaves, soit 10% de la population, ce qui conduira les autorités françaises à reprendre temporairement la traite dans les années 1810-1820 pour repeupler l'île et redémarrer les plantations sucrières. Il est important de rappeler ici que les îles esclavagistes françaises rassemblaient à la veille de la Révolution de 1789 la plus importante concentration d'esclaves au sein du monde euro-américain. Vers 1780-1790, les plantations françaises des Antilles et de l'océan Indien regroupaient autour de 700 000 esclaves, soit l'équivalent de près de 3% de la population française hexagonale de l'époque, qui était autour de 28 millions d'habitants, contre environ 600 000 dans les possessions britanniques et 500 000 dans les plantations du sud des États-Unis, nouvellement indépendants. Dans les Antilles françaises, les principales concentrations d'esclaves se trouvaient à la Martinique, en Guadeloupe, et surtout à Saint-Domingue, qui comptait à elle seule plus de 450 000 esclaves. Renommée Haïti, lors de la proclamation d'indépendance de 1804, reprenant ainsi un ancien nom amérindien, Saint-Domingue était à la fin du XVIIIe siècle le joyau des colonies françaises, la plus prospère et la plus profitable d'entre toutes, notamment grâce à ses productions de sucre, de café et de coton. Saint-Domingue était une colonie française depuis 1626 et occupait la partie occidentale de la grande île d'Hispaniola, où avait accosté Colomb en 1492, alors que la partie orientale était une colonie espagnole, avant de devenir la République dominicaine, de même que la grande île voisine de Cuba, où l'esclavage se prolongea jusqu'en 1886. Dans l'océan Indien, les deux îles esclavagistes françaises étaient l'île de France, la plus importante au XVIIIe siècle, mais qui fut occupée par les soldats anglais en 1810 et devint une possession britannique sous le nom d'île Maurice à la défaite de Napoléon en 1814, et l'île Bourbon, qui resta française en 1815 et fut renommée île de la Réunion pendant la Révolution. Au total, les plantations de ces deux îles regroupaient près de 100 000 esclaves vers 1780-1790 contre 600 000 dans les Antilles françaises. Il faut également insister sur le fait qu'il s'agissait véritablement d'îles aux esclaves, dans le sens où la proportion d'esclaves atteignait 90% de la population totale de Saint-Domingue à la fin des années 1780, ou même 95% si l'on inclut les métis, mulâtres et hommes libres de couleur. On trouve des niveaux comparables dans le reste des Antilles britanniques et françaises au cours de la période 1780-1830. 84% à la Jamaïque, 80% à la Barbade, 85% à la Martinique, 86% en Guadeloupe. Il s'agit là des niveaux les plus extrêmes jamais observés dans l'histoire des sociétés esclavagistes atlantiques et plus généralement dans l'histoire mondiale des sociétés esclavagistes. Voir graphique 6.1. Par comparaison, Les esclaves représentaient entre 30% et 50% de la population du sud des États-Unis ou du Brésil à la même époque. Et les sources disponibles suggèrent des proportions comparables à Athènes ou Rome dans l'Antiquité. Les îles des Antilles britanniques et françaises représentent au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle l'exemple historique le mieux documenté de société où les esclaves constituent la quasi-totalité de la population. Quand la proportion d'esclaves atteint 80% ou 90%, il est bien évident que les risques de révolte deviennent très élevés, quelle que soit la férocité de l'appareil répressif en place. Le cas d'Haïti était particulièrement extrême, dans la mesure où la croissance du nombre d'esclaves avait eu lieu à un rythme très rapide et où le nombre d'esclaves avait atteint un niveau nettement supérieur à celui des autres îles. Vers 1700, sa population totale est d'environ 30 000 habitants, dont à peine plus de la moitié d'esclaves. Au début des années 1750, Haïti comptait environ 120 000 esclaves, 77% de la population totale, 25 000 blancs, 19%, et 5 000 métis et hommes libres de couleur, 4%. À la fin des années 1780, la colonie comprenait plus de 470 000 esclaves, soit 90% de la population totale. 28 000 blancs, 5%, et 25 000 métis, mulâtres et hommes libres de couleur, 5%. Voir graphique 6.2. À la veille de 1789, ce sont environ 40 000 Africains qui arrivaient chaque année à Port-au-Prince et au Cap-Français pour remplacer les esclaves décédés et pour augmenter le stock d'esclaves qui s'accroissait alors à un rythme extrêmement rapide. Le système était en phase d'expansion accélérée quand éclata la Révolution française. Les Noirs libres commencèrent par réclamer le droit de vote et de participation aux assemblées dès le début de la Révolution, en 1789-1790. Cela paraissait logique compte tenu des grandes proclamations sur l'égalité des droits faites à Paris, mais ce droit leur fut refusé. Le grand soulèvement des esclaves débuta en août 1791, après le rassemblement de Bois-Caïman dans la plaine du Nord, avec la participation de milliers d'esclaves marrons, c'est-à-dire en fuite, qui s'étaient réfugiés depuis des décennies dans les montagnes de l'île. Malgré les renforts militaires envoyés de France, les insurgés gagnèrent rapidement du terrain et prirent le contrôle des plantations, pendant que les planteurs fuyaient le pays. Les nouveaux commissaires envoyés par Paris n'eurent d'autre choix que de décréter l'émancipation des esclaves en août 1793, décision étendue à l'ensemble des colonies par la Convention en février 1794, qui, par cet acte d'abolition généralisée de l'esclavage, marquait sa différence avec les régimes précédents, même si cette décision lui fut en réalité imposée par les révoltés. Cette décision n'eut guère le temps de s'appliquer. Les propriétaires obtinrent de Napoléon le rétablissement de l'esclavage dès 1802 sur l'ensemble des îles esclavagistes, à l'exception d'Haïti, qui déclara son indépendance en 1804. Il fallut attendre 1825 pour que Charles X reconnaisse l'indépendance d'Haïti et 1848 pour que l'abolition s'applique sur les autres territoires, en particulier à la Martinique, en Guadeloupe et à la Réunion.